Béni soit le Seigneur. Nous allons faire une première lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et au verset 33. Le Seigneur Jésus est en train de dire beaucoup de choses parce qu'il va quitter la terre, il va quitter ses apôtres et il veut les rassurer. Et il leur donne des encouragements, des instructions et même des commandements. Vous aimez les commandements? J'espère que vous les aimez. Oui, ils sont tous suivis de promesses. Jean chapitre 13, verset 33. Ce sont des chapitres qu'il faut les lire en entier, mais nous allons lire ce soir un commandement qui est bien sûr suivi de promesses. Jean chapitre 16, verset 33. 16. Vous écoutez mal, mes frères et sœurs. Jean chapitre 16, verset 33, ça ne peut pas venir de moi, je me trompe jamais. Donc Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses. Je vous ferai remarquer que tout ce que nous avions besoin de savoir, il nous l'a dit. Des fondements des choses, en vérité, on n'a pas besoin de les savoir. Mais ce que nous avions besoin de savoir, il nous l'a dit. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Nous aurons des tribulations. Je ne pense pas que je suis en train de vous enseigner quelque chose. À plusieurs reprises, maintes fois dans la parole de Dieu, Jésus l'a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Beaucoup de gens disent « j'aime Dieu », mais en vérité, ce n'est pas vrai. Je vous avais même dit une fois qu'un jour, j'ai été repris toute la semaine, parce que j'avais dit un dimanche matin, comme on parle parfois, on parle vite, des fois on peut dire des choses sans se rendre compte qu'elles ne sont pas tout à fait bibliques. Et j'avais dit, si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez Dieu. Et ce n'est pas forcément vrai. Par contre, la Bible est catégorique. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Et ce n'est pas parce qu'on va dans une église qu'on garde la parole de Dieu. Vous connaissez tous les textes, en tous les cas beaucoup de textes, où Jésus répète cette parole que je viens de citer d'une façon ou d'une autre. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est quand même un verset qui, chaque fois que nous le lisons, nous fait réfléchir. Car l'obéissance est plus agréable à Dieu que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. On se rend compte que l'obéissance a beaucoup de valeur dans le cœur du Seigneur. Pourquoi? Parce que quand un homme obéit, eh bien l'œuvre de Dieu peut se faire. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et on voit que de plusieurs façons, de plusieurs manières, le Seigneur veut nous rappeler à cette intelligence comment nous observons les commandements de Dieu. Vous le savez, les temps sont de plus en plus difficiles. On le sait, c'est écrit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. À cause des temps difficiles, ça sera humainement, ça sera de plus en plus dur. Puisque les temps sont de plus en plus difficiles, les choses sont de plus en plus difficiles. Par exemple, Jésus, il y aura des temps d'angoisse. Est-ce qu'il l'a dit ça? Oui, il l'a dit. Il a dit, Luc 21-25, ne le cherchez pas, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Vous avez vu les informations, ce qui se passe à Chypre, ce qui se passe une fois en Italie, ce qui se passe en Espagne, les scandales qu'il y a en France, tout ça, ça crée de l'angoisse chez les nations, etc. On ne se rend pas bien compte, mais ça crée une angoisse pas possible. En vérité, tout ce qui se passe pourrait nous effrayer, pourrait nous inquiéter, pourrait nous décourager, pourrait nous faire peur. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, ne vous effrayez pas, ne soyez pas troublés, il faut que ces choses arrive. Alors, il y a ce grand décalage parfois dans la prière. Seigneur, ne permets pas que ça arrive. Ben oui, mais bon, c'est quand même prophétisé. C'est écrit, il faut que ces choses arrivent. Donc, d'un côté, ces choses arriveront. De notre côté, nous devons être intelligents et dire, Seigneur, quand ces choses se présentent, je ne veux pas être troublé, je ne veux pas être découragé. Et je voudrais ce soir vous parler du découragement. Dimanche, on a parlé du problème du doute. Ce soir, on va parler du problème du découragement. Bon, que les gens du monde soient découragés, est-ce que c'est normal? Que les gens du monde soient désespérés, est-ce que c'est normal? Mais bien sûr, ça serait même inquiétant s'ils n'étaient pas découragés. Mais que le peuple de Dieu se décourage, c'est quelque chose qui devrait absolument être réglé. Mais nous voyons dans la Bible, par exemple, j'ai un verset qui m'est venu à l'esprit, le peuple perdit courage en chemin, je n'ai pas marqué l'indifférence ici, Nombre 21, verset 4, le peuple perdit courage en chemin, parce que le chemin est long, parce que le chemin est difficile, parce que des fois le chemin, eh bien, il monte, on aimerait qu'il descende, c'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien, le peuple perdit courage. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, les chrétiens peuvent perdre courage. Ça vous est déjà arrivé de perdre courage? Moi, oui. Et c'est vraiment pénible. Tomber dans le péché, franchement, c'est pénible. Mais tomber dans le découragement, je vous assure que c'est pas mieux. Parce qu'on n'est pas une source de bénédiction quand on est découragé. Enfin, je ne sais pas vous, comment vous l'avez vécu, mais c'est pas facile. Il y a des textes dans la Bible qui nous font réfléchir. Regardez avec moi, on va lire quelques-uns. Deux Chroniques, chapitre 15. C'est un verset, ce matin j'ai pris ma concordance et je cherchais tous les textes où il parlait d'angoisse. Il y en a des textes qui parlent d'angoisse dans la Bible, croyez-moi. Deux Chroniques, chapitre 15, on va lire le verset 5 et au verset 7. Il y a énormément de désobéissance, la conséquence elle est là. Deux Chroniques, chapitre 15, verset 5. On a l'impression de lire le journal du matin. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville. Regardez bien, c'est pas le diable. Parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous avez vu? Il y a de quoi méditer. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Il y a des angoisses. Il peut y avoir des angoisses qui sont le résultat d'épreuves. On le voit, Paul écrit aux Corinthiens, il parle des angoisses qu'il a. Je vous ai écrit avec angoisse. Tellement il avait peur de se tromper, il écrit avec des angoisses. Mais il y a des angoisses qui sont très ponctuelles, c'est-à-dire qu'on a une épreuve, on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, et il peut y avoir des angoisses qui sont psychiques. Et puis après, il peut y avoir des angoisses qui sont le résultat de notre désobéissance à Dieu. Mais le découragement est quelque chose de très grave, parce qu'il peut nous paralyser. Et le diable sait comment faire pour nous décourager. Vous savez, quelqu'un qui est découragé, comment il vit? Il vit dans quoi? Dans la défaite. Hein? Ben on le sait, parce que je le sais. Nous le savons. Quand nous sommes découragés, nous vivons dans la défaite. Le psaume 23, verset 7 dit « L'homme est tel que sont les pensées de son âme. » Et comme nous le répétons régulièrement par rapport au sujet du repos, « Comme il nous sera fait toujours selon notre foi, c'est pas le moment d'abandonner la foi, de la laisser défaillir, parce que notre foi peut défaillir. Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Donc, nous avons besoin de prier les uns pour les autres, pour que notre foi ne défaille pas. Est-ce que vous priez pour les chrétiens, pour les frères, pour les sœurs, les pasteurs? Il faut prier. Jésus a dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. La foi, c'est ce qui fait mouvoir le bras de Dieu. Il vous sera fait selon votre foi. Mais la foi et le découragement, ça ne peut pas habiter ensemble. Vous ne pouvez pas vivre par la foi et en même temps dans le découragement. Ou vous vivez par la foi, ou vous êtes découragé. C'est pour ça qu'il faut aborder ces choses qu'on va voir maintenant, parce que c'est important de le voir. Là où il y a le découragement, la loi de la foi n'est plus en place. Est-ce que vous avez pas même fui parfois des gens qui étaient décourageants? Est-ce que ça ne vous est pas arrivé? Vous savez, moi, l'étude sur le repos, je l'ai mise en place parce que j'ai entendu des témoignages à faire peur. Quand vous entendez un chrétien qui vous dit « ce chrétien-là, je l'évite parce qu'il me communique des angoisses, ce chrétien-là, je l'évite, c'est pas vous, ce chrétien-là, je l'évite parce qu'il me décourage toujours », vous avouerez qu'il est important d'aborder ce sujet. On ne va pas juger la personne, mais quand même, c'est bien la preuve qu'il faut aborder certaines choses. J'ai prêté dernièrement un livre qui s'appelle La Passion des âmes de Oswald Smith. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Je l'ai prêté à quelqu'un. Pensez à le ramener pour que je puisse le redonner à quelqu'un. Ce livre, j'ai lu cette histoire. Je vais vous la lire. Je l'ai noté dans ce livre. Il était dit que Satan avait décidé de prendre au piège un chrétien consacré. Il a convoqué les meilleurs de ses démons pour décider de la meilleure manière de s'y prendre. Un des démons se lève et propose quelque chose. « Comment feras-tu ?» lui dit Satan. « Oh, je lui montrerai un tableau de délices et de plaisirs et une vie de péché avec des couleurs si attrayantes qu'il sera impatient d'y goûter. » « Ça ne marchera pas, dit Satan. Cet homme a déjà pratiqué le péché et en connaît l'expérience. Il sait que cela mène à la souffrance et à la ruine. Il ne t'écoutera pas. » Un autre démon se lève et fait une autre proposition. « Je lui montrerai les épreuves, les renoncements d'une vie droite et il aura envie d'y échapper. » « Cela ne marchera pas non plus, répondit Satan, car il connaît la droiture pour l'avoir pratiquée et il sait que ses chemins sont ceux de la paix et du bonheur. » Alors un troisième démon se leva d'un bond et déclara qu'il était certain de pouvoir vaincre cet homme. « Que feras-tu pour en être si sûr ?» lui dit Satan. « Je mettrai le découragement dans son cœur. Cela marchera, tu réussiras. Va et ramène ta victime. » Cette histoire, quand je l'ai lue la première fois, je me suis dit, c'est une histoire. Mais je peux vous dire que les années ont passé et que je me suis rendu compte que c'était bien vrai. Que lorsque nous ne veillons pas à prendre courage, car c'est un commandement, rappelez-vous le verset en tête, prenez courage, c'est un commandement, c'est-à-dire c'est quelque chose qui indique que nous avons un effort à faire, prendre courage. Ça veut dire que je dois faire un effort pour saisir quelque chose. Si je vous dis prenez ceci, vous allez faire un effort. Eh bien, quand Jésus dit prenez courage, il sait très bien qu'il y en a un qui va essayer de nous décourager. Le découragement, c'est quelque chose de terrible. Moi, j'y suis tombé, j'ai failli arrêter le ministère, vous voyez, pour vous dire, bon, ça étonne personne. Qui est étonné ? Un pasteur qui est découragé, qui envisage de quitter le ministère, est-ce que ça tient debout ? Ben oui, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a plus d'espérance. Le découragement, ça ne peut pas venir de Dieu. J'ai parlé d'image des épreuves. Les épreuves, on ne peut pas dire ça vient du diable, on ne peut pas savoir. C'est vrai que les épreuves, c'est difficile, oui ou non ? Mais le découragement, laissez-moi vous dire que ça ne peut pas venir de Dieu. La vie avec le Seigneur Jésus, Paul le dit, la vie est une vie de foi, d'amour, d'espérance et de courage. On peut le rajouter, c'est pas transgresser la parole de Dieu. Et le monde, tout est fait dans le monde pour nous décourager. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Tout ce que vous voyez. Et il faut faire attention, il faut prier, plusieurs ont prié ce soir pour le discernement. Eh bien c'est bien, continuer. Parce que nous ne nous rendons pas compte à quel point tout ce que nous pouvons voir est souvent distillé par Satan pour essayer de nous décourager. Le Seigneur nous a dit ce qu'il avait à nous dire. Ce soir, nous sommes rassemblés, nous sommes l'Église, et je vous le dis, de sa part, prenez courage. Et Dieu sait ce qu'il a à vous dire. Vous auriez peut-être envie de ceci, envie de cela. Écoutez, prenez courage, dit le Seigneur, car j'ai vaincu le monde. C'est un commandement. Oh, si vous étiez attentif à mes commandements. Vous connaissez la suite. Recevez mes instructions. Un commandement, une instruction, c'est pareil. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Et un chrétien qui n'est pas sérieux avec cette exhortation que j'adresse ce soir est un chrétien qui ne respecte pas la parole de Dieu. Si vous gardez mes commandements, vous êtes vraiment mes disciples. Comme on l'a vu dimanche pour le doute ne peut pas provenir de l'humilité, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, mais c'est pareil, le découragement ne peut pas venir de l'humilité, ce n'est pas possible. J'ai entendu tellement de bêtises là-dessus, vous voyez, quelqu'un, oh, mais moi vous savez, c'est normal que je sois découragé, je ne vaux rien, je suis misérable, c'est normal, Dieu l'a voulu ainsi. Vous voyez, c'est de l'humilité ça ? C'est de la bêtise, pas plus, ni moins. Je ne vais pas l'expliquer. Bien sûr que c'est normal d'être découragé. Ça paraît normal d'être découragé. Franchement, avec tout ce qui se passe. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous regardez les informations pendant 2 heures, ben vous pouvez baisser les bras. Ça peut se comprendre. Bien sûr que c'est normal, ça paraît normal de dire, mais c'est normal que je sois dans la défaite, le monde est misérable, je suis misérable, etc. Je suis si faible. Quand vous regardez les exemples dans la Bible, en plus ça tient debout. Quand vous regardez les exemples, on va peut-être en prendre un. Moïse, Gédéon, Jérémie, si vous connaissez l'histoire, quand Dieu les appelle, ce sont des hommes qui de suite, ils s'affolent. Dieu les appelle. Ah, regardez, regardez Moïse. Quand Dieu l'appelle, « Oh, je suis un homme qui n'a pas la parole facile. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Ils ne me croiront pas. Ils ne me croiront pas. » Oui, dès que Dieu l'appelle, pourtant ça fait 40 ans qu'il attend que Dieu l'appelle, et quand Dieu l'appelle, il dit « Non, 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 prends-en un autre, prends-en un autre. » Pourquoi ? Il est découragé. Est-ce que vous seriez découragé si Dieu vous appelait à faire quelque chose ? Aujourd'hui, c'est pire. Parce que les gens sont découragés avant que Dieu les appelle. Écoutez, c'est grave. C'est grave, grave, grave. Je le vois, moi, dans l'église. Il y a des gens qui, avant même de penser, de voir, commencer à servir Dieu, sont déjà découragés. Alors, là, c'est grave. Il y a des gens qui sont convertis depuis 3 mois, depuis 10 ans, ils font rien. Pourquoi ? Parce qu'ils sont découragés avant même de commencer. Bon, là, c'est un autre problème. Mais c'est ceux qui arrivent. Et l'œuvre de Dieu ne se fait pas. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il faut avoir du courage. Et que si vous n'avez pas de courage, n'allez pas reprocher à l'un ou à l'autre, ou au pasteur, ou à celui-ci. Si j'ai pas de courage, c'est sa faute, parce que le courage, c'est Dieu qui le donne. Vous le croyez ? Alors c'est sûr que peut-être que vous êtes dans un environnement difficile. Vous ne croyez pas que Noé, il n'était pas dans un environnement difficile ? Qui c'est qui a cité Enoch tout à l'heure dans sa prière ? C'est vous, non ? Qui c'est qui a cité Enoch ? Qui a marché avec Dieu pendant 300 ans ? Je peux vous dire que du temps d'Enoch, ce n'était pas facile de marcher avec Dieu. Alors, Dieu, dans ces cas de figure, si vous avez regardé comment Dieu appelle Moïse, Dieu appelle Jérémie, Dieu appelle Gédéon, Dieu répond chaque fois. Qu'est-ce que Dieu répond ? Est-ce que Dieu les plaint ? Oh, c'est vrai, tu ne vaux rien. Qu'est-ce que Dieu répond ? Je serai avec toi. Chaque fois, vous l'avez remarqué, chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, Dieu ne tombe pas dans une espèce d'explication qui n'en finisse pas. Dieu dit, je serai avec toi. Dieu a dit par exemple à Moïse, mais qui a créé la bouche de l'homme ? Qui rend muet, sourd ou aveugle ? N'est-ce pas l'Éternel ? Puis il dit, je serai avec toi. D'ailleurs, on va le lire parce que c'est quand même bien. Parce que nous, on a besoin d'explications. On est là et ça m'inquiète, ça. De voir que les gens, ah, je vais aller voir un psychologue, il va m'expliquer, je vais aller... Alors je ne dis pas que je ne suis pas profondément contre, mais je crois qu'on a besoin d'une parole de Dieu. Une parole de Dieu. Regardez, dans l'Exode, au chapitre 4, que je ne me trompe pas, vous voyez, dont Dieu l'appelle. Alors, on va le lire. Exode, chapitre 4, verset 10. C'est Moïse. Bon, ce n'est pas pour ça qu'il ne va pas être une bénédiction, vous connaissez justement la suite. Mais regardez comment on perd le courage dès que Dieu nous parle. Qu'est-ce que c'est triste. Exode 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Vous voyez le découragement, comment ça nous pousse à servir. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme ? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi l'Éternel ? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, ah, encore il continue, « Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Bon, en même temps, ça nous rassure, mais en même temps, ça nous montre que le découragement, ce n'est pas une mince affaire, même quand Dieu nous parle. Et que si le Seigneur Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, ce soir, si vous retenez que ça, et que dans vos moments de communion avec Dieu, si vous dites, Seigneur, mais je prends courage, Seigneur, et vous allez voir qu'en lisant la parole de Dieu avec foi, un verset va vous donner du courage. Écoutez, j'espère que je ne vous apprends rien en vous disant ce que je suis en train de vous dire. Quand Dieu dit, je serai avec toi, ce n'est pas une parole, ce n'est pas qu'une parole. C'est une réponse. Vous demandez à Dieu des réponses ? Vous demandez parfois des réponses à Dieu. Et ce n'est même pas qu'une réponse, c'est une promesse. Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas une parole, ce n'est pas qu'une réponse, c'est une promesse. Parce que Dieu sait que l'on peut se décourager. Mais Dieu veut que nous comprenions qu'il sera avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire, je serai avec toi ? Parce que vous allez me dire, c'est 4 mots, je serai avec toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, si moi je vous dis, bon, on va faire quelque chose, je serai avec toi. Vous pouvez dire, ouais, d'accord, merci. Mais quand Dieu dit, je serai avec toi, vous avouerez que quand ça sort de la bouche de Dieu, c'est autre chose. Oui ou non ? Je serai avec toi, ça veut dire quoi ? Moi, le Créateur, ton Rédempteur, ton Dieu, ta force, en fait, tout ce que vous voudrez, ton Seigneur omniscient, omniprésent, j'ai marqué des choses. Ma présence, voilà ce que Dieu dit, ma présence sera avec toi. C'est exactement la même chose que Dieu nous dit ce soir. Je serai avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire, je serai avec toi? Parce que beaucoup de gens, oui, c'est tout ce que Dieu a à me dire. Parce qu'il y a des gens, vous savez, quand ils demandent, Dieu, parle-moi, parle-moi. Et ils vont entendre une prophétie. Je serai avec toi. Oui, j'avais demandé à que Dieu me parle. Et j'ai juste entendu, je serai avec toi. Moi, je trouve que quand on commence à parler comme ça, on n'est pas très respectueux de la parole de Dieu. Parce que Dieu l'a dit à Moïse, et on n'a pas le temps de voir Jérémie et tous les autres, mais moi je crois que quand Dieu nous dit « Je serai avec toi », ça veut dire, ben, on le sait, ça veut dire qu'il combattra pour nous. Vous croyez que Dieu combattra pour vous? Il l'a dit ou il ne l'a pas dit? Voilà, quand Dieu dit « Je serai avec toi », on n'a pas besoin, quand même, on sait ce que ça veut dire, on devrait être soucieux, je ne sais pas moi, « Je serai avec toi ». Je serai avec toi. Je me souviens, une fois, j'avais besoin d'un papier, c'était important, c'était en Polynésie, et il y a la troisième personne du territoire qui m'a accompagné, qui nous a accompagné. Mais une heure après, on avait le papier. Pourquoi? Parce que c'était qu'un homme, mais il avait l'autorité dans tous les bureaux de la Polynésie, et quand il a dit « je serai avec toi », on savait que ça, il n'y aurait pas de problème. Mais quand, encore, c'était qu'un homme, mais quand Dieu dit « je serai avec toi », ça veut dire que Dieu combattra pour vous. Ce soir, vous avez prié depuis dimanche, Seigneur, inspire ton serviteur. Quelle est la parole que tu as à me dire? Quel est le commandement que tu veux me répéter? Eh bien, ça veut dire, prends courage. Mais on pourrait conclure la réunion et dire, c'est bon, j'ai compris. Je sais ce que je dois faire. Parce que ça change tout. C'est ça quand on vit par la foi. Le Seigneur combat à notre place. C'est pour ça que ce n'est pas grave si on est faible. Regardez Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Paul, est-ce que Paul, vous considérez Paul comme un homme fort ou vous considérez Paul comme un homme faible? Ça, c'est un débat, ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Paul? Est-ce qu'il était fort ou est-ce qu'il était faible? Non, non, je veux pas de ça dépend. Qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il était, Paul? Il était fort ou il était faible? Avec tout ce qu'il a fait, est-ce que ça vous donne l'image d'un homme faible? Bon. 2 Corinthiens, chapitre 12. Alors, il va avoir une épreuve terrible. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, est-ce que ça valait la peine que Paul ne soit pas orgueilleux ?» Vous savez, Dieu, il sait ce qu'il doit faire aussi pour nous, hein, pour pas qu'on le devienne. « À cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit... Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cet homme avait compris une chose. C'est que ce n'est pas le problème d'être faible ou pas être faible. Le problème, c'est de savoir si Dieu est avec nous. Parce que si Dieu est avec nous, c'est lui qui combat pour nous. Si Dieu est avec nous, c'est lui qui s'occupe de nous. C'est lui qui prend soin de nous. Et c'est très très bien expliqué. En plus, il est dans un état de faiblesse. Il a une épreuve très grave qui le frappe. Ça ne l'arrête pas. Au contraire, il comprend qu'il ne faut pas qu'il s'enorgueillisse. Donc, lui, il accepte l'épreuve. Il sait que la grâce de Dieu est là. Est-ce que la grâce de Dieu, elle est là? Est-ce que vous comptez sur la grâce de Dieu? Mais j'espère que vous comptez sur la grâce de Dieu. Et je pense, mes frères et sœurs, qu'il faut que nous comprenions cet état d'esprit. Vous pouvez ce soir dire, mais oui, je suis parfois faible, mais le Seigneur est avec moi. Vous le croyez, cela? C'est ça, la foi. C'est ça, la foi. On va prendre notre exemple. La différence. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 1er, on les voit, Dieu veut leur parler au travers de Moïse, parce que Dieu utilise toujours quelqu'un pour vous encourager. Est-ce que vous le savez? Il peut le faire du haut des cieux. Est-ce que Dieu pourrait vous parler du haut du ciel? Je pense que ça ne rendrait pas service à beaucoup de gens. Deutéronome, chapitre 1er, verset 21. Dieu encourage le peuple au travers de Moïse. Regardez. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, ne crains point et ne t'effraie point. Vous voyez toujours la même façon de Dieu de parler. Ne crains point, ne t'effraie point, je suis avec toi. Ça revient toujours au même niveau à peu près. Mais les circonstances, je ne sais pas les circonstances dans lesquelles vous vivez, si c'est les circonstances qui vous préoccupent ou si c'est la puissance de Dieu. Mais regardez le résultat. Verset 28, verset 27. Vous murmurâtes dans vos tentes. Ça change de la réaction de l'apôtre Paul. Vous avez vu la différence ? Vous murmurâtes dans vos tentes. Vous savez, Dieu sait ce qui se passe dans nos maisons. Parce qu'il n'y a pas que dans les réunions publiques où on chante Alléluia. Il y a aussi comment on parle dans nos maisons. Après les réunions. Comment on se comporte chez nous. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, regardez un petit peu, la perception qu'ils ont de Dieu, c'est parce que l'Éternel, comment vous avez dans votre Bible ? Vous rendez compte ? Vous vous rendez compte avec ce qu'ils avaient, les expériences qu'ils avaient faites ? C'est parce que l'Éternel nous hait, qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, alors que ça faisait 400 ans qu'ils priaient pour sortir quand même, hein, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous ? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant « C'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous avions vu des enfants d'Anak. » Comme s'il y en avait partout alors qu'il n'y en avait que trois. Vous voyez, il y avait trois géants. Bon, c'est trois quand même. Il n'y en avait que trois. « Je vous dis, ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, lui-même marche devant vous, combattra lui-même pour vous selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. » On va lire le verset 32, car il résume ce qui se passe vraiment. « Malgré cela, vous n'eûtes pas confiance en l'Éternel, votre Dieu. » Voyez, ils ont murmuré dans leur tente. C'est l'image du chrétien qui murmure. Voyez l'apôtre Paul, pourtant il va se traîner une écharde toute sa vie. Mais là, ça m'est égal d'être dans la faiblesse, parce qu'il a confiance en Dieu. Et pourquoi depuis des mois je vous exhorte sur le repos de la foi ? Parce qu'en vérité, vous avez confiance ou vous n'avez pas confiance à Dieu. Alors les gens rapides diront, mais moi je crois en Dieu. Mais je ne vous demande pas si vous croyez en Dieu. Je nous demande si oui ou non nous avons confiance en Dieu. Ils avaient vu les 10 plaies d'Égypte. Ils sont passés au travers de la mer Rouge. Ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir. C'est quand même une expérience qui était peut-être bien, non ? Et vous avez vu, ils sont dans le murmure, ils n'ont pas confiance en Dieu. Ce n'est pas parce qu'on fait des expériences qu'on est fidèle à Dieu. Il y a des gens, ils ont été guéris 5 fois du cancer, ils sont rétrogrades. Est-ce que ce n'est pas vrai ? Il y a des gens, ils ont fait des expériences, moi je me suis dit, mais ça va être des colonnes dans l'église. Je vous assure, moi quand on est jeune, on est naïf. Moi j'ai vu des gens, ils ont fait des expériences, est-ce que je peux rendre témoignage ? J'ai vécu ça, et j'ai fait ça, et le Seigneur m'a fait ci. Oh, j'ai dit, c'est les prochains Billy Graham de l'Église. 2 mois après, ils avaient rétrogradé. Mais vous avez l'explication. C'est pas parce qu'on a fait des expériences qu'on est obéissant. Et c'est pas parce qu'on a fait des expériences qu'on a confiance en Dieu. Les espions, vous vous rappelez quand Dieu envoie 12 responsables, 12, aujourd'hui on dirait 12 leaders, 12 pasteurs qui s'en vont envoyés par Moïse. Ils voient pendant 40 jours ce qui se passe dans le pays de Canaan et ils reviennent. Et quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont découragé tout un peuple, à part deux, à part Josué et Caleb. À 10, ils ont réussi à décourager plus de 2 à 3 millions de personnes. Le découragement, on va le voir à la fin. Laissez-moi vous dire que c'est contagieux. C'est pour ça que nous devrions faire attention à la façon dont nous parlons. Ils ont commencé à dire, oui, c'est vrai, à la vérité. C'est bien ça, mais nous y avons vu des géants, nous avons vu des géants à nos yeux. Nous étions comme des sauterelles. Vous avez vu un petit peu l'image qu'ils ont d'eux. Nous étions des sauterelles. Tiens, à quoi vous comparez-vous, au fait ? Nous étions comme des sauterelles. À quoi vous comparez-vous ? Si ce soir vous deviez... Oula, Madame Chapeau. Évitez-la, Madame Chapeau, ce soir. À des lions. Bon, d'accord, tant mieux. Puisque la Bible dit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Je la connais. Si elle dit ça, c'est un verset à l'appui. Mais est-ce qu'il y a des géants aujourd'hui ? Pas des géants de 3,50 m dans la rue, mais est-ce qu'il y a des géants ? Oui, il y en a des géants. Des géants, la tentation, franchement, la tentation, est-ce que ce n'est pas une forme de géant ? Vous avez vu toutes les tentations qu'il y a ? Sérieusement, soyons honnêtes, il n'y en a pas des tentations, c'est un truc de fou. L'épreuve, est-ce que ce n'est pas quand même un géant ? Parce qu'on sait qu'on aura en plus des épreuves, on le sait. Si Dieu nous disait, bon voilà, écoute, tu obéis, tu n'auras plus d'épreuves. Mais justement, c'est parfois l'inverse. C'est que quand on n'obéit pas, on a des épreuves pour nous ramener à Dieu, et quand on obéit, on a des épreuves pour mûrir. C'est compliqué l'affaire des épreuves. Mais il y a des épreuves. L'affliction, est-ce que ce n'est pas une épreuve? Ce n'est pas un géant, l'affliction, etc., etc. Oui, il y a de quoi nous décourager si on regarde en bas. Mais la question n'est pas de savoir si on ressemble à des sauterelles, c'est clair. La question qu'on doit poser, écoutez bien, la question qu'on doit vraiment poser, mais c'est qui est Dieu? Eh oui, qui est Dieu pour nous? Pour vous, qui est Dieu? Pour toi, mon frère? Parce que c'est ça la question. Que tu te compares à une sauterelle, écoute, bon, moi ça ne me gêne pas. C'est pas intelligent, mais ça ne me gêne pas. Mais la question qu'il faut nous poser, qui est Dieu? Alors je vous tutoie, pour que ça soit plus précis, pour toi mon frère, qui est Dieu? Parce qu'elle est là la question. Ce soir, tu peux, qu'est-ce que tu réponds? Pour moi, Dieu sait. C'est quoi? Vous avez vu comment il parlait de Dieu? Avec tout ce que Dieu avait fait pour eux, qui est Dieu? Qui est Dieu pour toi? Est-ce que c'est ce Dieu qui combat pour toi? Est-ce que tu, quand tu pries, à genoux, assis, couché, les mains levées ou pas, qu'importe, quand tu es dans la présence de Dieu, est-ce que tu crois que le Dieu qui a dit qu'il serait avec toi et qu'il combattrait pour toi, quand tu lui fais entièrement confiance, est-ce que tu crois qu'il combat pour toi? Voilà, c'est ça la question. Et mes frères et sœurs, c'est un problème sérieux, le problème du découragement. Si on prenait le temps, faites-le si vous avez une concordance, vous allez voir toutes les fois où le découragement a bloqué le peuple de Dieu, c'est quand même impressionnant. Et Moïse ne va pas arrêter de les exhorter, pourtant lui qui était tombé dans le découragement au moment de son appel, ce qui prouve qu'on peut tous y passer, mais qu'après on peut réagir parce que Dieu nous a parlé. Dieu leur rappelle par Moïse toutes les délivrances, toutes les lois, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. La preuve, c'est qu'ils ne sont pas rentrés dans le repos. On l'a lu dimanche, ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas que Dieu ne les aimait pas, c'est Dieu connu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'était plus d'accord avec eux, c'est qu'ils ne pouvaient pas y entrer. Et quand on n'entre pas dans les promesses, ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas, c'est qu'on ne peut pas, parce qu'on entre dans les promesses par la foi. Et aucun de ces hommes n'est rentré dans le pays. Et les estimations sont à 2 à 3 millions de personnes. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont rentrés dans le pays parce qu'ils ont dit, voilà, Dieu l'a dit, il le fera. Donc je réitère ma question, qui est Dieu pour toi? Quand on voit certains chrétiens, on se demande qui est Dieu, franchement. Le problème, il est toujours là. C'est un problème qu'on voit dans l'Exode, dans le Deutéronome. C'est un problème qu'on voit du temps de l'apôtre Paul. C'est que les gens sont paralysés par leur impuissance. C'est vrai que nous ne sommes pas puissants par nos propres forces, mais est-ce que Dieu est tout puissant? Et si nous laissons notre cœur à se remplir de choses négatives, vous voyez des chrétiens des fois, ils sont exactement comme les païens. Alors ça va, oh ben ça fait 3 semaines qu'il pleut, vous savez j'ai le cafard. Bien sûr, si votre cœur est rempli de ces choses, ne vous étonnez pas que votre foi soit en stand-by. Écoutez. Franchement, bon, mais c'est sûr qu'on préfère le soleil. Bon, mais enfin, bon, on ne va pas y passer la journée, vous comprenez bien. Mais si nous laissons notre cœur se remplir de choses négatives, ne soyons pas étonnés que les promesses de Dieu n'arrivent pas à nous atteindre, etc. Voulons-nous, oui ou non, vivre dans le repos de la foi? Normalement, c'est pour ça qu'on est là ce soir. On a combattu le bon combat, de 7h30 à 8h30, on a prié ensemble pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Là, nous sommes maintenant dans une autre heure, à savoir que nous sommes exhortés pour être fortifiés. Mais si nous voulons vivre dans le repos de la foi, il nous faut apprendre ou réapprendre à avoir une foi vivante. Regardez le psaume 27. Vous avez un psaume de David. Où vous en êtes de cette parole? On va lire. Parce que ce qui est important, ce n'est pas de comparer pour dire « Ah, je n'en suis pas là », mais c'est bien de dire « Mais est-ce que je ne pourrais pas en arriver là ?» Dans le psaume 27, on va lire du verset 1 au verset 3. Voilà, David est dans un moment particulièrement intéressant. Psaume 27, verset 1er. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée, il va loin, hein, Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Je serais, si une guerre s'élevait contre moi, qu'est-ce qu'il dit ? Je serais, malgré cela, plein de confiance. C'est ça, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Vous savez que moi, j'ai eu un gros problème avec ces personnes qui se disent remplies du Saint-Esprit et qui sont tout le temps découragées. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il est rempli d'espérance. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de confiance. Est-ce que vous me comprenez ? C'est pas possible autrement. Et moi, je vous assure, j'ai eu des discussions houleuses avec certains chrétiens parce que, pour moi, c'est impossible. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il est plein, on l'a dit, qu'est-ce qu'il a dit ? Je serai plein de confiance. Quelqu'un qui est rempli, il est rempli. Quelqu'un qui est plein, il est plein. Quelqu'un qui est ivre, vous le savez quand quelqu'un est ivre ? Vous avez vu comment il est ? Vous avez vu comment il chante ? Il ne chante pas des cantiques, mais il chante. Voilà, pourquoi ? Parce qu'il est rempli. C'est pour ça qu'il dit, ne soyez pas... Il y a une image, on n'a pas le temps de l'expliquer. Mais quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il est rempli d'espérance. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il est plein de confiance. Et moi, je vous dis que ce n'est pas le parler en langue qui détermine la vie de l'esprit. Ce qui détermine la vie de l'esprit, c'est que quelqu'un, il a du courage. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il va faire du bien, mes frères et mes sœurs. Et si nous voulons le repos de la foi, il faut vraiment chercher à comprendre les commandements du Seigneur. Alors, c'est vrai qu'il y en a les motifs du découragement. Qu'est-ce que c'est qui peut nous décourager ? Les autres, est-ce que les autres, la crainte des autres, est-ce que les autres peuvent nous décourager ? Est-ce que vous avez déjà été découragé par quelqu'un ? Il y a des gens, quand ils vous parlent, c'est impressionnant. Je vous assure, on devrait quand même y réfléchir à nos paroles. La crainte des autres, est-ce que vous êtes découragé par ce que les autres peuvent vous dire ? C'est une question. Ce n'est pas ce que les autres pensent qui doit nous encourager, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est quoi ce qui est important ? Ce que les gens disent ou les promesses de Dieu ? C'est les promesses de Dieu. Vous devez être bouleversé par les promesses du Seigneur. Et le seul remède, c'est le même, se rappeler que Dieu est avec nous. Est-ce que Dieu est avec vous ? Amen. Voilà, même si quelqu'un vous dit « oui, tu as fait ceci, tu as fait cela », mais alors, je sais quand même que le Seigneur est avec moi. Et qu'il va m'aider dans cette affaire, parce que je lui demande pardon, parce que je veux sa grâce. Et le Seigneur va l'aider. Ce que Dieu a dit à Gédéon, il nous le dit, je serai avec toi. C'est écrit dans le Nouveau Testament, ça ? Parce que quelqu'un peut dire, à juste titre, ah oui, monsieur Go, mais Dieu l'a dit à Moïse, Dieu l'a dit à Gédéon, Dieu l'a dit à Jérémie, oui, d'accord, mais Dieu ne me l'a pas dit à moi. Alors, est-ce que Dieu l'a dit dans le Nouveau Testament ? Ils sont bien, ces stagiaires. Alors, on va lire une promesse, pas dans Matthieu 28, mais dans Hébreux chapitre 13. On va le lire. C'est bien, Jérémie, c'est bien. Pas Jérémie, non, c'est pas joli. Et les Hébreux, c'est plus joli. Hébreux chapitre 13. Regardez, c'est important. Parce que les gens disent, oui, si Dieu me le disait à moi. Eh bien, voilà. Hébreux 13, verset 5. Mais voyez jusqu'où les gens peuvent aller. Mais parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Moi, je me rends compte d'une chose, c'est que les gens... Enfin, ils la lisent pour la lire. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Contentez-vous de ce que vous avez, ça oui. Car, vous y êtes ? Hébreux 13, 5, verset B. Car Dieu lui-même a dit... Ça, ce n'est pas à Josué, ni à Moïse, ni à Jérémie. Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point. » Je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Donc vous avez la preuve dans ce qu'on vient de lire, que Dieu dit à tous les hommes, dans le Nouveau Testament, je serai avec toi. Et pourquoi les gens sont découragés ? Parce qu'ils écoutent les autres. Franchement, je vous le dis, si vous écoutez les autres, vous n'avancerez pas. Il vous faut... Écoutez les promesses du Seigneur. Le découragement à cause des autres, le découragement à cause de nos échecs. Bon, là par contre, est-ce qu'on a tous des échecs ? Est-ce que vous avez des échecs ? Oui, on a tous des échecs. On en a tous. Pourquoi ? Parce que notre nature est pécheresse, parce que nous ne sommes pas parfaits. Regardez à la défaite d'Haï. à la défaite d'Aï, vous connaissez l'affaire, Josué et toute cette armée remontée à bloc, paf, tout d'un coup, il y a une défaite, et ils sont tous découragés. Et voilà, Josué par terre, allongé, vous vous rappelez ? Josué, on aurait pu dire, mais qu'est-ce que tu fais là ? Donc, quand on connaît Josué, on a l'impression que c'est pas lui, c'est pas possible, c'est quelqu'un d'autre. Il est là, allongé par terre, il se jette de la poussière dessus, il est découragé, voilà. Qu'est-ce que Dieu lui dit ? Dieu lui dit, lève-toi. Pourquoi restes-tu couché, le visage par terre, à pleurer ? Je crois qu'il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Mais Dieu lui dit, debout. Lève-toi. Sanctifie-toi. Il y a un problème. Mais ce n'est pas la peine, quand il y a un problème, d'attendre 6 mois. Il y a un problème, on le règle de suite. Et Dieu dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu restes allongé par terre ? Lève-toi. Ça veut dire, mais ressaisis-toi, surmonte le mal par le bien. C'est ça que ça veut dire. Il y a des gens, ils sont dans l'échec, mais ils sont dans l'échec 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je vous dis ? Il y a des gens, ils sont dans l'échec, ouais, j'en ai marre, il s'est passé ça, il s'est passé ci, on m'a fait ceci, ou j'ai fait cela. Vous voyez, les échecs, nos échecs, ou les échecs que l'on vit à cause des autres, etc. Nous n'oublions jamais, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit, il est là pour nous convaincre de péché. Oui ou non ? Mais le Saint-Esprit ne nous convainc pas de péché pour nous décourager. Le Saint-Esprit nous convainc de péché pour nous faire réagir. Oh, tu me montres ce péché, eh bien je le règle. Ce n'est pas possible que le Saint-Esprit nous montre un péché pour nous décourager. Vous êtes d'accord avec moi ? Ce n'est pas possible. C'est exactement le contraire. Comme nous, les parents, nous montrons les défauts à nos enfants, quand il y en a, nous montrons, est-ce que c'est normal qu'un papa ou une maman montre un défaut de ses enfants ? C'est pour lui faire des reproches ou c'est pour l'aider à se corriger ? Mais c'est pour l'aider. Quand le Saint-Esprit nous convainc de péché, ce n'est pas pour qu'on soit battu pendant 6 semaines. C'est pour que de suite, on dise, bon, allez, je me lève, tu m'as montré ça, c'est pas bien, et bien je le règle. C'est ce que Dieu dit à Josué, mais arrête, lève-toi. Tu ne vas pas rester couché comme ça toute la vie. Et il y a des chrétiens, vous discutez avec eux. Moi, j'ai vu un chrétien que je n'avais pas vu depuis 7 ou 8 ans, il était exactement dans le même état qu'il y avait 7 ou 8 ans, à cause d'une erreur. Ça fait pitié, vraiment. Ils n'ont pas compris l'enseignement de la parole de Dieu. Bien sûr que nous, on voudrait être parfait. Est-ce que vous aimeriez être parfait ? Allez, répondez. Est-ce que vous aimeriez être parfait ? Bon. En plus que c'est un commandement, soyez donc parfait. Comme votre Père Céleste est parfait. Bonjour, le niveau. Vous aimeriez être parfait ? Oui, donc, c'est ce qui explique que nous vivons très mal nos échecs. Parce que nous, quand on se voit comme on est, parfois, bon... Qu'est-ce que vous pensez quand vous vous voyez comme vous êtes ? Allez, soyez honnête. À quoi vous pensez ? Ben, ça ne vous met pas de bonne humeur, je veux dire. Oh, je ne suis pas content de moi. Oui, et il faut faire attention, parce que le travail de Dieu ne s'accomplit pas dans la mauvaise humeur. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec des gens qui sont toujours de mauvaise humeur. Ça vous est déjà arrivé, Michael, Jérémy ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Non, mais sérieusement, est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler avec des gens qui font toujours la tête ? Le travail de Dieu ne se fait pas bien dans une église où les gens sont de mauvaise humeur. Et vous comprenez pourquoi il y en a un qui fait tout pour nous décourager. Et ça, ce sont des choses qu'il faut étudier. Alors, mais le pire, c'est que le découragement a toujours de mauvais résultats. Et il nous amène toujours, on ne s'en rend pas compte, mais à parler contre Dieu. J'en ai suffisamment parlé. Quand on se plaint, en vérité, on parle contre Dieu. Vous l'avez lu dans la Bible, je sais que vous me faites confiance, c'est la parole de Dieu. Et nous devrions faire très, très attention. Le psalmiste dit ceci, ne le cherchez pas, psaume 78, verset 19, « Ils parlèrent contre Dieu et dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ? » Ils ne sont pas contents, ils traversent le désert et commencent à dire, « Oui, pourquoi Dieu nous a menés là ?» Et à Moïse, ils le disent. Mais la Bible dit qu'ils parlèrent contre Dieu. Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ? Alors, Dieu peut-il dresser une table dans le désert ? Est-ce que c'est écrit ? Dans quel psaume ? Dans le psaume 23, tu dresses une table en face de mes adversaires. Le découragement, je l'ai dit en entrée, le problème du découragement, c'est qu'il est contagieux. On a parlé des 10 espions qui, à eux seuls, ont découragé tout un peuple. On se demande comment c'est possible. Bon, peut-être parce que c'était des responsables. Mais beaucoup de chrétiens, et quand même là on devrait réfléchir, chacun, beaucoup de chrétiens ne s'en rendent pas compte, mais sont tout le temps en train de parler de leurs échecs, de leurs déceptions, d'une mauvaise manière. Est-ce que l'apôtre Paul parle de ses angoisses? Il en parle. Est-ce que ça vous décourage quand Paul parle de ses angoisses? Non. Vous avez vu comment il en parle? Ça vaut la peine de relire les Corinthiens. Mais vous avez quand même aussi remarqué qu'il y a des chrétiens, quand ils parlent de leurs échecs et de leurs déceptions, ils en parlent d'une très mauvaise manière. Oui ou non? Et c'est à cela qu'on reconnaît si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Dans la pensée de Dieu, c'est quelque chose de très important. C'est tellement important que lorsque Dieu dicte les lois de la guerre, n'oublions pas que nous aussi, nous sommes en guerre spirituelle. Il y a un combat spirituel. Quand Dieu dicte les lois de la guerre, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on va le lire. Dans Deutéronome, chapitre 20, regardez dans quel état d'esprit il demande de faire la guerre. Deutéronome, chapitre 20, verset 8. Moi, ce verset, la première fois que je l'ai lu, ça m'a montré que Dieu voulait que dans l'Église, nous ayons du courage. Regardez bien. Deutéronome, chapitre 20, verset 8. C'est tout un tas de lois sur la guerre. Et nous si on n'a pas à prendre un fusil, mais on a un combat spirituel à mener. Et regardez quand même, ça fait quand même réfléchir. Deutéronome 20, verset 8. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qu'est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Vous comprenez, mes frères et sœurs, pourquoi le commandement du Seigneur est important? Prenez courage. Parce que dans l'Église, nous avons tout intérêt, d'autant plus que les temps sont difficiles, à veiller à nous encourager les uns les autres. C'est un commandement. Et que personne ne s'amuse à dire, oh ben moi, vous savez, ceci. Non. Si vous êtes chrétien, vous devez céder à ce commandement et dire, ben, je vais prendre courage. Je vais prendre courage parce que quand je vais rencontrer les frères, les sœurs, les amis, les inconvertis, je veux leur donner du courage. Cette parole de Jésus, prenez courage, c'est pas comme si dans le monde quelqu'un vous dit, bon ben, prends courage, ça repose sur rien. Mais quand Jésus dit prends courage, il dit prenez courage car j'ai vaincu le monde. C'est sur la base de sa victoire, c'est pas sur une base humaine, psychologique, d'optimisme. Vous voyez, il faut être optimiste les jeunes, allez, il faut être optimiste. Non, c'est sur des bases solides. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. Et je peux vous dire que dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, les choses seraient différentes. Si on comprenait ce qu'est le courage, si on comprenait ce qu'est le découragement, que le découragement consiste à parler contre Dieu. Est-ce que nous le réalisons ça? Moi, vous savez, je vous l'ai dit dernièrement, quand vous entendez un chrétien qui vous dit « je fuis les chrétiens parce qu'ils me communiquent des angoisses », écoutez, est-ce qu'il n'y a pas besoin de prendre une victoire? Des gens qui se disent remplis du Saint-Esprit? Nous devrions veiller, parce que nous sommes sous le regard de Dieu, nous avons besoin d'être exhortés, d'être repris, d'être enseignés, d'être corrigés. Le but de l'enseignement, c'est ça. Mais nous devrions nous poser la question, est-ce que par mes paroles, j'édifie les gens? D'autant plus, hier je lisais les textes sur l'édification. Quand Paul dit aux Éphésiens, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Éphésiens 4, 29. Et je crois que nous devrions nous poser la question, tiens, aujourd'hui, j'ai discuté avec Monsieur de Dieu, j'ai discuté avec Claudine, j'ai discuté avec Monsieur Piette, je vais leur demander si je leur ai fait du bien ou si je les ai découragés. Comment je parle de mes problèmes? Parce qu'il y a plusieurs façons de parler de ces problèmes. On peut dire, tiens, voilà, j'ai telle difficulté, priez pour moi, je sais que Dieu va me relever, mais pensez à moi dans la prière, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est une façon de parler. On peut dire, voilà, j'ai des difficultés, j'en ai marre, je ne sais pas si je vais persévérer, je ne viens plus à la prière. C'est presque la même chose. Mais vous avouerez que ça n'a pas le même résultat. Vous, quelqu'un qui parle, il devrait édifier. Mes frères et sœurs, il y a une prophétie d'Ésaïe, et je termine avec ça, qui commence par cette parole, consolez mon peuple. Le Saint-Esprit, vous le savez, est appelé le Consolateur. Vous le savez, je vous enverrai un autre Consolateur. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Il peut traverser des épreuves, des bénédictions. Le problème, il n'est pas qu'il soit dans l'épreuve, ou dans la bénédiction, dans la joie, ou dans la tristesse, dans la maladie, ou dans la santé. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans la vie de l'esprit. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il peut dire courage à son frère. Est-ce que vous avez envie de dire courage aux autres? Est-ce que vous voulez utiliser votre vie pour dire aux autres, prends courage. Tu sais que Dieu est avec toi. Je ne sais pas comment t'aider, mais je prierai pour toi. Dieu va t'aider. Mes frères et sœurs, Ésaïe 41, verset 7, chacun dit à son frère, courage. Pourquoi ne suivrions-nous pas cet exemple? Pourquoi ne déciderions pas de dire, allez, je t'encourage. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour ton foyer. Je vais prier pour tes enfants. Je vais prier pour ton conjoint. Je vais prier parce que Dieu a vaincu à Golgotha. Vous le croyez que Dieu est vainqueur? Prenez courage. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des épreuves. Il y en aura de plus en plus. Il n'y a pas besoin d'être prophète. C'est écrit. Ça ira de plus en plus mal. Mais ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas découragés. Il a vaincu le monde. Il vous épargnera. Il vous gardera. Il vous protégera. Il vous consolera. Il fera ce qu'il a besoin de faire pour vous bénir. Vous êtes ses enfants. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Méditez ces choses. Prenez courage. Demain matin, levez-vous. Moi, je vous assure, quand j'étais découragé pendant des semaines, tous les matins, je me levais, je dis, Seigneur, je me mettais à genoux, je me rappelle. Et j'avais que ces deux mots. Seigneur, je prends courage. Dieu m'a éprouvé. Mais à un moment donné, j'ai reçu du courage. Pourquoi? Parce que si Dieu dit, prends courage, c'est qu'il va vous en donner. Quand c'est lui qui le donne, vous faites vite la différence. Parce que dans votre cœur, dans notre cœur, il n'y a pas grand-chose de bon. Mais dans le sien, il y a tout ce dont on a besoin.